Vous écoutez
RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bonjour à tous, bon réveil sur RMC à 4h56. On est tous ensemble, comme chaque matin, pour se réveiller en douceur, avec de l'info aussi, de la bonne humeur, avec Estelle Gass. Salut Estelle.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Comment ça va ce matin Estelle?
Mais moi très bien, mais toi, ouais. Ça va?
Eh bah, ça, ça va, ça pique un peu, oui, petite soirée au Parc des Princes, assez douloureuse, mais... Mais oui, bah le PSG qui a perdu, quoi. C'est le match aller. Voilà, maintenant, faut croire à l'exploit dans une semaine. Mais le PSG qui s'est incliné 3-2 hier soir face au Barça. Oui, je te sens inquiété, Estelle. Non, t'inquiète pas. Tu sais, quand on est supporter parisien, on en a vécu d'autres. Hein,
oui,
des soirées
sais,
un peu douloureuses. Ah bah, je vois déjà Raph qui veut nous appeler au 32. Incroyable. Est-ce que Raph est déjà là au 32-16? Bonjour, Raph.
Bonjour.
Hey, bonjour tout le monde.
Waouh, Raph, notre routier mâconnais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone, Raph. Comment ça va ce matin?
Eh ben ça va depuis l'Italie, alors c'est pas trop Mâcon là.
Ah oui, depuis l'Italie, ah oui. Oui, originaire de Mâcon, mais oui, ça fait un peu de route, vous êtes où en Italie, Raph?
À 30 km de Venise.
30 km de Venise,
sympa.
Ben c'est, ouais, sympa, ça, c'est le beau côté du métier, voilà, des beaux paysages, des belles routes. Et bah, Raph, même si vous êtes en Italie, vous avez réussi à suivre le match hier soir, il y avait RMC.
Ouais, mais non, mais moi le ballon il est pas assez ovale pour moi.
Ah oui, il est plutôt rugby, Raph. Bon, bah, ça me fait quand même plaisir de vous avoir ce matin au téléphone. Bah voilà, il y en a un qui a la pêche, malgré la défaite du PSG, c'est Raph.
Et ah bah, moi, ça va pas me faire pleurer. Après, par contre, maintenant que je sais que le PSG a perdu, je vais aller appeler mon PDG tout à l'heure et puis je vais lui mettre un petit peu 2-3 tacles en même temps, comme
ah,
ça.
Ah, parce que le patron est pour Paris, c'est ça, Raph?
Ah oui, il habite à côté du Parc des Princes en plus.
Ah bah voilà, bon bah ça va chambrer au boulot, voilà, faut s'en servir, faut voilà. Le voir comme ça de cette défaite du PSG hier soir. Et bon, Raph, vous, en tout cas, on va vous accompagner. Ça, c'est la magie aussi, je suis désolé de le dire, Raph, mais je le souligne à chaque fois, ça me fait toujours plaisir de vous entendre en dehors de nos frontières. C'est la magie de l'appli RMC, c'est que Raph est en Italie, mais voilà, on est avec vous en Italie, on est avec vous partout dans le monde grâce à l'appli RMC, grâce à Direct Studio. J'en profite à travers vous, Raph, pour nous dire, tiens, vous qui nous écoutez en dehors, j'adore ça, moi. Dehors de nos frontières, n'hésitez pas à un petit message sur Direct Studio. Tu vas voir Estelle, ça va défiler.
C'est
le monde
entier. Voilà.
Le monde entier va s'afficher sur Direct Studio. Bon bah Raph, bon courage pour la route en Italie ce matin.
Ça va bien aller, ouais.
Ça va bien aller.
Quand vous êtes là, c'est bon.
Eh ben on est là pour rouler avec vous évidemment à vos côtés. Ciao Raph, faites comme Raph, vous nous passez un petit coup de fil ce matin, un petit bonjour au 32-16. C'est Catherine qui vous accueille au standard et puis justement. On va vous attendre au 32-16 ce matin pour notre débat du jour consacré à, évidemment, l'ultra-violence des jeunes. On en parle beaucoup en ce moment, les victimes s'accumulent.
Oui, il y a deux jours, un nouvel adolescent est décédé d'un coup de couteau à Romans-sur-Isère. La semaine dernière, c'est Chem Chéline qui était battu à mort à Viry-Châtillon. Et puis quelques jours à peine après, l'agression de Samara devant son collège à Montpellier, toutes ces victimes ont moins de 16 ans.
Oui, et les auteurs présumés sont rarement plus vieux. Hein. On ne peut plus parler de faits divers isolés, ça devient des faits de société. Ce qui nous amène à cette question. En tant que parent, là, en ce moment, comment vous vivez ce déchaînement de violence chez les jeunes? On a ce sondage Elab qui nous dit que 80% des parents en France sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes inquiet pour vos ados? Est-ce que vous constatez cette montée de la violence chez les jeunes? Aujourd'hui, on se bat, on sort les couteaux. Racontez-nous comment ça se passe autour de vous, le quotidien de vos ados. Comment protéger vos enfants, nos enfants, aujourd'hui, de cette violence? Et puis, qui en est responsable? Quand on interroge les Français, ils citent en premier les parents. Les parents, premiers responsables, les parents démissionnaires, la responsabilité des parents devant celle des réseaux sociaux. Là aussi, on va en parler avec vous ce matin. Vos témoignages, ça se passe au 32-16. On va vous donner toutes les infos aussi dans nos journaux ce matin sur RMC. Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct, c'est votre journal, présenté par Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Les quais de Bordeaux, cœur battant de la ville, frappé par la mort, la ville sous choc après l'attaque au couteau hier soir. La piste terroriste est écartée. Un motif futile a-t-il conduit à la mort d'un ado à Romans-sur-Isère? Le jeune Zakaria a été poignardé à mort dans le quartier de la Monnaie. Et voilà le PSG puni par le FC Barcelone. 3-2 en quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Il faisait encore jour hier soir à Bordeaux quand un homme a brandi un couteau.
Bilan, un mort et un blessé grave. L'assaillant a ensuite été abattu par la police. L'attaque a eu lieu dans un lieu très fréquenté par les Bordelais, Amélie Vlachin, avec notre correspondant Pierre Bourgès.
Oui, au Miroir d'Eau, en centre-ville, le long de la Garonne, là où de nombreux Bordelais se baladaient hier à cette heure-là. Salomé était en train de boire un verre avec une amie. Elles ont assisté à la scène.
Mon amie a vu quelqu'un se faire plaquer au sol. Moi, j'ai vu une autre personne tomber dans les bras de quelqu'un. Et là, on a vu un mouvement de foule de gens autour.
À terre, deux hommes, dont un de 37 ans, qui succombe à ses blessures sous les yeux de ses proches.
J'ai vu des gens autour de lui. Il y avait, je crois, un mec pour arrêter l'hémorragie. J'étais paniqué.
L'assaillant tente de fuir par les quais, mais il est vite repéré par la police qui l'abat quelques centaines de mètres plus loin. Sur son chemin, il croise Camille qui faisait son footing.
J'allais dans le sens opposé de cette personne-là et 30 secondes plus tard, j'entends trois coups de feu. J'ai vu cet homme au sol avec la police à ses côtés qui ont commencé à faire un massage cardiaque. La police a été très prévoyante. Ils ont attendu que les coureurs comme moi s'éloignent un petit peu pour pouvoir mettre en place leur champ d'action.
Le parquet de Bordeaux a été saisi de l'affaire. Pour le moment, la piste d'une bagarre qui a mal tourné est privilégiée.
Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. Un suspect interpellé et deux autres toujours activement recherchés après la mort d'un ado de 15 ans à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune aurait tenté de s'interposer dans une bagarre dans le quartier de la Monnaie pour un motif futile. Tout le quartier, tristement connu depuis la mort du jeune Thomas à Crépol, est sidéré. Vincent Chevalier a rencontré un habitant qui préfère rester anonyme. Nous avons utilisé un prénom d'emprunt et modifié sa voix.
Arrivé quelques minutes après les faits, Rachid prend rapidement la mesure du drame.
Les jeunes déjà du quartier ont fait des massages pendant un petit moment. Ensuite, les pompiers sont arrivés avec la police. Puis bon, il y a des gamins qui pleuraient un peu isolés dans les coins. Une maman qui rassurait un peu d'autres jeunes.
Les témoins lui retracent alors le fil de la soirée. À l'origine, une embrouille entre jeunes qui dégénère et l'adolescent qui essaye de s'interposer.
C'est exactement ça, il se fait planter alors qu'il essaye de séparer. C'est un peu son tempérament aussi, de raisonner un peu tout le monde. Et ouais, c'est un peu ce qu'on appelle les dommages collatéraux, quoi. C'est terrible.
Un jeune de la Monnaie, connu dans tout le quartier, moins présent depuis le début de son apprentissage dans le sud de Valence.
C'est un gamin qui a la tête sur les épaules, toujours souriant, voilà, bon vivant, qui était très apprécié, quoi, donc c'est un choc.
Un acte de violence qui révolte Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère. D'après l'élu, c'est désormais au gouvernement de prendre ses responsabilités.
On voudrait que tout le monde puisse se mettre autour de la table, toutes les personnes qui sont en lien avec ces problématiques qui sont liées à la délinquance, et qu'on puisse travailler ensemble et contribuer à la mise en œuvre d'une véritable politique de lutte contre ces phénomènes.
Selon le procureur de Valence, une enquête pour meurtre a été ouverte dès mardi soir.
La violence, l'ultra-violence, une nouvelle fois à Romans-sur-Isère, mais un peu partout en France. Vous avez suivi ces drames des derniers jours. Est-ce que ça vous inquiète en tant que parent? Est-ce que vous avez peur pour vos ados, pour les jeunes aujourd'hui en France? Est-ce que vous constatez cette montée de l'ultra-violence? Qui en est responsable aussi? On a ce sondage ELAB qui nous dit qu'aux yeux des Français, ce sont d'abord les parents qui sont responsables de cette montée de la violence chez les ados et ensuite les réseaux sociaux. Mais c'est vous qui allez nous le dire ce matin. On attend vos témoignages au 32-16.
Première nuit en prison pour la mère d'Avallon dans l'Yonne, mise en examen avec 5 autres suspects pour trafic de stupéfiants. C'est l'annonce du parquet d'Auxerre après la découverte des 70 kilos de cannabis au domicile de Jamila Abzaoui. Dans un communiqué hier soir, le procureur de la République a donné quelques précisions sur l'avancée de l'enquête, Romain Houg.
Oui, selon le procureur d'Auxerre, l'enquête préliminaire a permis de mettre en cause deux frères de Jamila Abzaoui comme pouvant se livrer à l'achat et la revente de produits stupéfiants de manière habituelle à partir du domicile de leur sœur. Les deux frères qui étaient la cible de ce coup de filet ont donc eux aussi été mis en examen. L'un d'eux qui a reconnu les faits dédouane complètement sa sœur, la mère d'Avallon. Dans une interview mardi accordée à la presse locale, l'avocat de l'élu avait déclaré que sa cliente était abasourdie par la découverte faite dans sa maison et qu'elle n'avait strictement rien à voir avec les faits reprochés. Mais dès hier soir, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé qu'elle suspendait Jamila Abzaoui, son poste de conseillère régionale. Contactée par RMC, une élue LR d'opposition à la mairie demande, elle, la mise en retrait de Jamila Abzaoui, de la mairie d'Avallon, dont elle est à la tête depuis 2021. Trois autres personnes ont été mises en examen dans cette affaire.
Comme un air de déjà-vu avec 10 milliards d'euros d'économies prévues par Bercy, qui s'ajoutent aux 10 milliards déjà annoncés, le ministère de l'économie, et qui revoit à la hausse ses prévisions de déficit, 5,1% du PIB contre 4,4%. Pour autant, l'exécutif veut passer sous la barre des 3% d'ici à 3 ans. Cela pourrait gréver la croissance française, redoute Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE.
20 milliards d'économies sur la dépense publique, ça veut dire que vous allez moins distribuer d'argent public, soit dans la poche de certains ménages, soit aider des entreprises. Ces derniers vont moins consommer ou moins investir, et donc à court terme. Certes, les déficits vont baisser, mais au prix d'un ralentissement marqué de l'activité et avec finalement des déficits qui se seront améliorés, mais moins qu'anticipés.
Et puis toute la palette des émotions hier soir ressentie par les supporters parisiens devant le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. Leur équipe s'est inclinée 3-2. On a suivi le match au bar Le Belouchis, proche de la gare du Nord à Paris. Ils étaient nombreux, Clément Brossard, à croire, malgré la défaite, en la qualification du PSG la semaine prochaine.
Au coup de sifflet final, Nathan est légèrement assommé.
Franchement, on ne sait pas ce qu'on a fait ce soir. Je comprends pas.
Car les supporters réunis dans un bar parisien ont tremblé hier avant de douter, comme Victor, d'une éventuelle qualification la semaine prochaine à Barcelone.
Ce qu'on a vu globalement sur la partie, c'est pas du tout rassurant. Je suis assez pessimiste sur ce que j'ai vu.
Une défaite 3-2, loin d'être insurmontable pour Samuel, encore marqué par la remontada de 2017. Cette année-là, Barcelone avait entamé le match avec 4 buts de retard suite à la première manche, avant de s'imposer.
À partir de ce match-là, on a su que tout était possible. Encore une fois, je dis, il n'y a qu'un but. Il suffit entre guillemets que de gagner 2-0 là-bas et c'est bon.
Falilou, lui, attend surtout une réaction de son équipe.
Bah bien sûr que c'est possible, on n'a pas le choix de gagner. On espère que là-bas, ils auront un peu plus d'envie, qu'ils auront envie de nous satisfaire, parce que là, on est totalement déçus.
Aucun doute pour Alex, convaincu d'une qualification parisienne.
On reconnaît nos erreurs pour mieux rebondir derrière. On a une grande équipe, on a un grand entraîneur, on va faire des grandes choses. Et vive Paris!
Allez, Paris!
Ces supporters du PSG se sont déjà donné rendez-vous dans les bars de la capitale mardi prochain pour le match retour.
Et vous, Thomas, vous y croyez ou pas?
Ah oui, moi, clairement. Ah, okay. Clairement, je suis avec eux. 3-2, ça se refait facilement.
Ok, Estelle?
Je vais y croire pour toi, Charles.
Ouais, c'est gentil. C'est gentil d'y croire pour moi. Je suis un peu plus dubitatif. Tiens, on va voir ce qu'en pense David, qui nous appelle au 32-16. Salut, David.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
On est dans les Alpes-Maritimes avec David, c'est ça, un chauffeur poids lourd.
Exactement, de Nice.
Et de Nice, mais vous êtes où ce matin, David, déjà au volant?
Oui, on attaque à 4h30. Ouais.
Déjà à 4h30 au volant avec RMC, avec nous pour vous accompagner, David. Et bah, du tout, tiens, est-ce que vous avez suivi le match hier soir?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça pique un peu ce matin au réveil. Mais bon, on a suivi le match. J'étais un peu curieux parce que, bon, vous avez compris, je suis niçois, je ne suis pas supporter parisien. Mais bon, après, j'aime bien le foot, quoi. Mais je me suis vite aperçu que c'était la même chose que les années précédentes, quoi. Toujours pareil, quoi. Ils ont commencé un peu à monter en intensité au début, puis de suite, ils sont redescendus plat. Mbappé absent, un fantôme. Dembélé, à chaque fois... Alors, c'est sûr qu'hier, il marque un but, mais bon, à chaque fois qu'il fait une action, j'ai l'impression que c'est un replay de l'action précédente. Donc, en fait, à un moment donné, le défenseur, il est pas con. Hein.
Est-ce qu'on peut aussi parler de Donnarumma, David, le gardien parisien?
Ouais, aussi. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'il était aligné, je me suis dit, on va rigoler, on va voir un peu des...
J'ai l'impression que vous avez regardé le match pour vous marrer, en fait, David.
Ouais, parce que moi, je suis pas supporter parisien. Hein. Après, j'aime bien le football, quoi.
Je me pose la question, objectivement. Est-ce que le PSG a une chance au retour?
Moi, je pense que non.
Merci David de me donner de l'espoir ce matin.
Moi, je pense que non, mais tout simplement parce que à Barcelone, le Barça va pas jouer pareil, quoi.
Ils vont verrouiller, ouais.
Et là, ils vont verrouiller. Et Paris, ils seront encore moins bons qu'hier à Barcelone, je pense. Hein. Donc peut-être que Mbappé va se réveiller, mais je pense que ça ne suffira pas. Vous vous rendez compte, il faudrait qu'il gagne à Barcelone.
Vous savez, la dernière fois, on avait gagné 4-0 à l'aller au Parc, était confiants.
Mais ce que vous oubliez, c'est que la dernière fois, le Barcelone n'était pas le Barcelone d'aujourd'hui vrai, et le Paris n'était pas le Paris d'aujourd'hui.
C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais bon, c'est une autre histoire, le match retour. Voilà, j'ai envie d'y croire à l'exploit.
Moi, je veux bien vous faire plaisir. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème.
David, vous avez raison, vous êtes plus objectif que moi.
J'essaie juste d'être réaliste et quand j'écoute les supporters parisiens, je me dis, mais soit ils y comprennent rien, ou alors ils sont aveuglés par leur foi.
Sinon on n'y va même pas, on prend même pas l'avion pour Barcelone si on n'y croit pas, David.
Je vais juste vous donner une anecdote. Allez. Chez nous, il y a 2-3 Parisiens, des supporters, mais vraiment des fous furieux. Et des fois, quand ils nous narguent, parce que bien sûr en championnat, des fois on perd contre Paris. Moi, j'ai un truc imparable qui les calme de suite. C'est dit, ok, il y a pas de problème, tu veux parler, on en reparle au mois de mars, comme ça au moins les choses seront réglées. Et chaque année. Au mois de mars, les choses sont réglées, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de Paris.
Voilà. C'est vrai que le printemps est souvent douloureux quand on est supporter du PSG. Vous avez raison, David. Bon, en tout cas, merci d'être venu débriefer.
Je serai supporter parisien, j'aurai les boules. Voilà.
Je vous confirme. En tant que supporter parisien ce matin, je vous confirme. C'est à peu près l'état d'esprit ce matin, mais heureusement qu'il y a un match retour. Voilà, il y a une semaine d'espoir. Un peu moins même. Ce sera mardi soir le retour Barça PSG. Ce sera évidemment à vivre sur RMC. Merci David d'être passé ce matin au 32-16. Bon courage pour la route ce matin, David.
Ouais, je vous remercie. À bientôt. Et en cas, je vous rappelle mardi prochain. Si j'ai eu tort, il n'y a pas de problème, j'assumerai.
On se rappelle mercredi prochain pour fêter la qualif parisienne.
Mercredi, oui, pardon.
On fait ça ensemble, ok, David.
Si j'ai eu tort, j'assume. Il n'y a pas de problème.
Ok. Et si vous avez eu raison, je vous envoie la coque RMC, ok? On attend une semaine, David.
Ouais,
on
se donne... J'ai déjà commandé.
Oh là là, il y en aura une deuxième.
Vous m'envoyez un t-shirt.
Allez, le t-shirt si le PSG est éliminé. Voilà, c'est pour vous, David, la semaine prochaine. Rendez-vous au 32-16. Alors, David est passé par le 32-16. Il y a aussi tous vos messages ce matin sur Direct Studio. Estelle les a sous les yeux. Et alors, Estelle, ce matin sur Direct Studio, on fait le tour du monde.
Et oui, on a Anne-Laure qui nous fait un petit coucou de Suisse où elle nous écoute tous les matins depuis 4 ans grâce à l'application. On a Gina qui nous fait un petit coucou de Tenerife. Bruno qui nous dit bonjour de Saint-Martin où il est 23h. Wow. Je partage ta douleur, Charles.
Oui, merci. Ça doit être moins pénible quand on est à Saint-Martin au soleil. À 23h, il fait nuit. Mais...
c'est toujours sympa quand même. Et puis on a Michel qui nous dit bonjour de Kirkkonummi en Finlande. J'espère que je prononce
Finlande,
bien.
Incroyable. Voilà. La Suisse, la Finlande, les Antilles, on est partout. Tenerife. On fait le tour du monde grâce à l'appli RMC. Vous n'hésitez pas à Direct Studio et le 32-16. Sans oublier que le matin, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Eh oui, tous les matins, vous qui écoutez toute l'info sur RMC, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Sur quel score s'est imposé Barcelone hier soir face au PSG?
Ah, vous êtes nombreux, malheureusement, à avoir la bonne réponse, j'en suis sûr. Vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et vous gagnerez donc un radio réveil, dernier cri de la marque Muse. Si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à 6h20.
Eh bien, soyez rapide, actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC, police justice.
Et tous les matins, une histoire repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. On retrouve ce matin Julie Bro. Bonjour Julie.
Bonjour Charles, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, direction la Corse, où une femme et son amant ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir brandi des menaces du FLNC afin d'écarter un mari cocu.
Oui, c'est une histoire dont seule la Corse a le secret. L'affaire commence en septembre 2019 quand des lettres de menace sont envoyées à deux maisons voisines. Des courriers qui reprochent aux habitants de, je cite, « prendre l'argent aux Corses à cause de locations ponctuelles ». Une intimidation signée des lettres FLNC comprenait Front de Libération Corse, le nom du mouvement nationaliste. Ces menaces se répètent, la police se saisit donc de la situation. Elle place alors le couple propriétaire des villas sous surveillance et c'est là que les enquêteurs découvre toute une machination. L'épouse entretient en fait une relation secrète avec son amant. Elle cherche donc à faire fuir son mari, à le faire quitter sa maison. Mais ça ne s'arrête pas là. Le couple adultère prévoyait même de se débarrasser du mari cocu. Dans des SMS, la femme de 59 ans évoque par exemple un accident de chasse pour le tuer ou bien la possibilité de le jeter par-dessus la terrasse. Alors lors de son procès, elle a d'abord tenté de se justifier, mais elle a très vite assuré que cette histoire l'avait finalement rapprochée de son mari. Avant de conclure, notre amour est plus fort. Un amour dont elle ne pourra profiter qu'après sa condamnation à 30 mois de prison. Son amant, lui qui a été considéré comme l'exécutant, écope de 2 ans d'emprisonnement.
Merci pour ce récit, Julie Bro, Julie du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
À vous de nous dire si les parents sont responsables, coupables de l'ultra-violence chez les jeunes. Est-ce que cette ultra-violence qu'on constate de ces derniers jours, ces dernières semaines, vous inquiète pour vos propres enfants? Cette montée de l'ultra-violence chez les jeunes, est-ce que vous la constatez autour de vous? Vous venez nous le dire au 32-16, hein, Chem Sedine, Samara, des agressions qui s'enchaînent ces dernières semaines. Un adolescent sur deux se dit victime de violences répétées. 8 parents sur 10 inquiets. C'est vous qui êtes venu en témoigner. C'est à vous de nous dire. Dans un instant, ça se passe au 32-16. Et puis tout de suite, c'est RMC qui s'engage. RMC avec vous. Margot Boult qui vient en aide à François, ancien SDF. Son assurance lui doit 4000 euros pour une moto qu'il a vendue il y a près de 9 ans.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h17. Excellent réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Margot Boult qui nous rejoint ce matin. Bonjour Margot.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Aujourd'hui Margot, vous venez en aide à François.
Oui, et je vous l'annonce tout de suite, c'est une histoire qui finit très bien ce matin. François est un fan de moto. Il y a 12 ans, il achète une Suzuki rouge, une Hayabusa 1300 cm3 pour nos auditeurs qui s'y connaissent. Bref, un beau bolide.
Une grosse cylindrée, oui.
Exactement, sauf que 2 ans plus tard, des galères d'argent commencent pour François. Alors pas le choix, il vend sa moto. Mais petit à petit, d'autres problèmes s'accumulent.
J'ai eu une séparation difficile, j'ai perdu mon emploi, je suis retrouvé SDF. J'ai postulé pour des emplois d'intérim saisonnier. J'ai toujours travaillé, mais je dormais dans ma voiture. Personne ne pouvait me loger, j'avais pas assez d'argent pour me loger correctement.
François dort dans sa voiture pendant 3 ans. À Nantes, à Rouen, il y traverse des canicules et des hivers très froids.
Ah oui, mais vous nous avez promis, Margot, une histoire qui se finit bien. Donc j'imagine que François, depuis, a pu un peu remonter la pente.
Oui, Charles, bien sûr. Depuis 1 an, il a retrouvé un CDI, un logement et même une compagne. Sauf que si François a fait appel à nous, c'est parce qu'il s'est rendu compte récemment que l'assurance pour sa moto continue d'être prélevée. 40 euros tous les mois, alors qu'il a vendu sa moto il y a 9 ans. S'il ne s'en rend compte que maintenant, c'est qu'il avait évidemment perdu l'habitude de regarder ses comptes quand il était sans abri, on peut le comprendre. Et la facture est salée, 4000 euros au total.
Je pensais que c'était réglé, quoi. Bah, s'il pouvait me les rétribuer, j'en serais très reconnaissant. Et c'est vrai, avec toutes les galères que j'ai passées, j'avais fait un emprunt aussi pour m'en sortir un petit peu. Donc c'est 4000 euros. À l'heure actuelle, ça, c'est pas négligeable pour moi.
Oui, c'est sûr que ça l'aiderait là dans sa nouvelle vie qui redémarre. Vous avez pu faire quelque chose pour François ?
J'ai contacté son assureur, Generali. Le problème, c'est que notre fan de deux roues n'a gardé aucun justificatif pendant toutes ces années de galère. Pas de chance, l'assurance non plus ne retrouve pas les documents qui prouvent la vente de la moto à l'époque. Mais l'administration française, elle, les a bien, on a vérifié. Ah. En tout cas, Generali a entendu l'appel de François et on est vraiment ravis de l'annoncer. Malgré les documents égarés, l'assureur a accepté, à titre exceptionnel, de rembourser ces fameux 4000 euros.
Ah bah encore une fois, bravo, vous avez fait des miracles. Margot et toute l'équipe d'RMC s'engagent. On salue François qui nous écoute de bonne heure. Et vous faites comme lui d'ailleurs, vous n'hésitez pas à contacter l'équipe RMC avec vous à rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
Je crois qu'il ne faut pas être aveugle sur ce qui se passe. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes.
La violence désinhibée des adolescents, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, c'était vendredi dernier, en réaction justement aux derniers événements.
La mort de Chemchedine dans l'Essonne, l'agression de Samara à Montpellier, le passage à tabac d'une adolescente à Tours et il y a 2 jours, c'est un autre adolescent de 15 ans qui est mort d'un coup de couteau dans la Drôme.
Oui, des victimes qui ont à peine 13, 14, 15 ans, des auteurs présumés pas beaucoup plus vieux, hein, des faits divers ultra-violents qui se succèdent et qui inquiètent les Français, hein. Selon un sondage Elab, 79% des parents se disent inquiets pour leurs enfants. Écoutez par exemple tiens, le témoignage de Nadia. Nadia a composé le 32-16 la semaine dernière. Elle a appelé Apolline. Nadia est mère de famille.
Je lui pose la question tous les soirs. Est-ce que tu n'as pas eu de problème à l'école ? Rassure-moi, tu n'es pas harcelée. Je surveille ce qu'il regarde sur son téléphone,
ouais.
Sur son ordinateur. Je suis présente, je suis limite mère poule.
Quand vous dites, je demande le soir, tu n'as pas eu de problème à l'école, c'est plus tu as passé une bonne journée.
Exactement, voilà, c'est ça.
C'est terrible c'est ça. En fait.
Alors racontez-nous, vous, à la maison, comment ça se passe avec vos ados? Est-ce que vous sentez monter cette ultra-violence, cette violence débridée entre jeunes? N'hésitez pas à venir en témoigner en tant que parent. Et puis, on va s'intéresser aussi aux responsables, aux causes de cette montée de la violence chez les ados. Quand on interroge les Français, toujours dans ce sondage-là, quand on leur demande pourquoi autant de violence chez les ados, la première responsabilité aux yeux des Français, c'est la défaillance des parents. 59% pensent que les parents ne jouent pas leur rôle. Ensuite, ce sont les réseaux sociaux qui sont pointés du doigt pour 43% des Français. Puis le manque de sévérité de la justice pour 37%. Bref, ces causes de la montée de la violence chez les ados, on en parle avec vous ce matin au 32-16. Vous n'hésitez pas. Il y a aussi derrière tout ça, vos messages, vos témoignages, ça se passe aussi sur Direct Studio. Là, je vois Marie-Lou qui nous dit, on le voit en ce moment, nos jeunes se construisent dans un climat d'insécurité. Elle pointe aussi, voilà, ce qui se passe dans la société. Elle nous dit l'ambiance générale, les guerres, les causes climatiques, l'inflation, tout ça fait que c'est très difficile de grandir aujourd'hui. Je n'excuse pas la violence, bien au contraire, mais j'essaye de comprendre, nous écrit Marie-Lou. Voilà, les causes de cette violence. On peut aussi en débattre ce matin, vos témoignages sur Direct Studio et au 32-16. Au 32-16, je vois aussi Erwin qui nous appelle depuis... Ah, on est du côté de Lyon, c'est ça, avec Erwin. Bonjour Erwin.
Bonjour, l'équipe, ça va ?
Bonjour Erwin, comment ça va vous ce matin ?
Ça
Ça va très bien, comme tous les matins, aller au boulot.
Aller au boulot, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Erwin?
Employé libre service.
Employé libre service avec RMC le matin pour aller au boulot. Et alors vous, Erwin, alors je crois que vous, ce qui vous a fait décrocher le téléphone ce matin à être avec RMC, c'est le foot. Hein. Vous avez suivi la soirée du PSG, c'est ça?
Bien sûr, malheureusement, mais bon. Le problème du Paris, c'est pas une équipe, c'est des stars.
Ah bah ouais, mais alors au Barça, il y a des stars aussi, Erwin. C'est pas le problème, non? Ouais, en Ligue des Champions, il y a que des stars.
Ouais, mais c'est pas les mêmes stars que Paris Saint-Germain. En fait, le problème du Paris, c'est en fait ils jouent chacun pour soi.
Ah, c'est trop, ça, bien le problème. Trop d'individualité côté PSG,
bien
pas
sûr,
assez de collectif.
Bien sûr.
Alors, Erwin, ok, on va se projeter. Est-ce que Paris peut faire l'exploit la semaine prochaine après cette défaite 3-2 hier soir? Est-ce que le Paris peut s'imposer la semaine prochaine à Barcelone?
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Ok, enfin, super, Erwin.
Au moins, s'ils vont marquer un but, ça serait déjà formidable, mais jamais de la vie.
Ah oui, incapable de gagner là-bas pour vous, Erwin?
Bien sûr que si. Rien de l'ambiance de stade. Ils vont être choqués. Rien que ça.
Mais avec un grand Mbappé, je sais pas, non, l'exploit est impossible.
Mbappé, je suis désolé, mais il a pris trois grosses têtes. Je suis désolé. Bon, il faut qu'il arrête lui aussi. C'est
oh là là, bah dis donc, Erwin, je vous sens pas confiant. Vous êtes pour qui, vous, Erwin? Vous êtes supporter de foot?
Bah bien sûr que si. Moi, je sais pas, l'Olympique Lyon, c'est la seule équipe qui va loin pour la France.
Ah ok, pour l'Olympique Lyonnais, Erwin, saison un peu plus compliquée mais qui se termine bien, c'est vrai, du côté de l'OL. Voilà. Bon, je vous sens pas très confiant, Erwin, pour la semaine prochaine pour le PSG. On va voir, hein, ce matin, c'est vrai que c'est un peu défaitiste. Hein. Personne ne croit à l'exploit, oui. Pour l'instant, que ce soit au 32-16 ou sur Direct Studio. Bah, vous faites comme Erwin, ce matin, vous venez réagir, évidemment, ça se passe avec vous au 32-16, il est 5h24.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, votre journal de 5h30 qui approche, avec à la une cette attaque au couteau hier soir à Bordeaux. Une personne est décédée, l'assaillant a été abattu par la police. Tous les derniers détails, c'est dans votre journal dans quelques minutes sur RMC. Ensuite, toute la bande qui va nous rejoindre à 5h40. Venez boire un café avec l'équipe, avec Anthony Morel pour C'est Déjà Demain. Alex Biggerstaff tient la Story Sport. On va parler des supporters qui sont les grands perdants du quart de finale de Ligue Europa ce soir entre Benfica et l'OM. Vous saurez tout dans la Story Sport, mais tout de suite, c'est votre pouvoir d'achat, la solution conso avec Estelle.
Oui, on va faire les courses avec une méthode pour vous faire quelques économies.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bon réveil à tous sur RMC, bientôt 5h30, comme chaque matin, on s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Avec Estelle Gass. Estelle, aujourd'hui on va faire les courses avec une méthode révolutionnaire.
Oui Charles, retenez bien, c'est la méthode IMC. Derrière ce sigle se cache une pratique très simple. I pour inventaire, le M pour dresser un menu, enfin C pour les courses. C'est Charlotte, une mère de famille, qui a popularisé cette méthode sur les réseaux. Elle est connue sous le pseudonyme de Organizen Green Mama. Eh bien j'ai demandé à Charlotte en quoi consistait réellement cette méthode.
Commencer par faire le point sur ce qu'on a déjà à son domicile, parce que le gaspillage alimentaire, c'est aussi une grande source de gaspillage budgétaire. Et donc, prendre l'habitude de faire l'inventaire à la fois de ses placards, donc du stock d'épicerie, mais également de son réfrigérateur, de son congélateur, et de se servir de cet inventaire comme d'une base pour établir des menus, en venant compléter uniquement avec les denrées manquantes, avant ensuite de partir faire ses courses à l'aide de cette liste, ce qui permettait à la fois de faire de grosses économies, de ne plus générer de gaspillage alimentaire.
Inventaire, menu, course. J'ai bien retenu,
c'est
IMC.
Bien,
mais alors combien j'économise avec cette méthode?
Eh bien environ 30 à 40% sur votre ticket de caisse. La maman de 4 enfants nous met aussi en garde d'acheter que les produits dont nous avons besoin et donc de ne pas se jeter sur un produit dont on n'a pas besoin juste parce qu'il est en promotion. Acheter en vrac peut aussi vous permettre d'économiser et de ne prendre que la quantité dont vous avez besoin. Mmh. En revanche, la méthode IMC nécessite de trouver du temps pour cuisiner et éventuellement de trouver également des recettes adaptées. J'ai donc demandé à Charlotte ses méthodes pour trouver des recettes plus facilement.
Tout simplement, j'ai une fois par semaine un plat à base de pâtes, une fois par semaine un plat à base de riz, une fois par semaine ce que j'appelle la finger food, quelque chose qu'on peut manger avec les doigts, une fois par semaine une tarte salée. Voilà, j'ai décliné et ensuite j'adapte ces plats en fonction de ce qui me reste dans mon inventaire, des fruits et des légumes de saison pour réduire au maximum les coûts et manger sainement.
Et puis si vous n'avez pas le temps de cuisiner la semaine, oui, il y a le batch cooking pour faire tous ces plats de la semaine dès que vous avez une heure. Charles, on se met au fourneau dès qu'on a fini la matinale si vous voulez.
Ouais, je vais peut-être faire ça le week-end pour la semaine plutôt, le batch cooking. Mais on remercie aussi Charlotte, voilà, oui, et Estelle pour les bons conseils avec cette méthode IMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et comme tous les matins, on se fait plaisir, on sourit avec le meilleur d'Arnaud Demanche.
Dans la famille Dupont de Ligonnès, on demande la sœur, la voilà. Et dans la famille Dupont de Ligonnès, je demande la femme, eh ben, pioche.
Oh.
Christine qui a scié les jambes de tout le monde avec une théorie pour le moins étonnante. Elle affirme que les 5 corps trouvés dans le jardin de Xavier sont ceux d'une autre famille. Enfin, je veux dire, ce serait quand même étonnant. Ce serait une famille que personne ne réclame depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'il devait être sacrément relou, cela. Hein. Alors, Xavier avait aussi laissé une lettre expliquant qu'il était espion, hein, comme le font tous les espions qui préviennent régulièrement leur entourage qu'ils sont espions, au lieu de faire croire qu'ils sont mutés comme informaticiens.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure, évidemment, dans Apolline Matin.
RMC, Charles Matin.
Bon réveil à tous sur RMC, toute l'actu, toute l'info en direct. Votre journal avec Thomas Chenel. Bonjour Thomas.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La piste d'une rixe privilégiée à Bordeaux après l'attaque au couteau sur les quais de Garonne. Bilan, un mort et un blessé. 1 milliard d'euros après les émeutes de 2023. L'addition est salée et puis tout reste ouvert. La confiance de Luis Enrique en son équipe pour le match retour après la défaite hier soir du PSG face à Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions.
La piste terroriste écartée dans l'attaque au couteau hier soir à Bordeaux.
Un assaillant a poignardé deux hommes peu avant 20h dans le quartier très fréquenté du Miroir d'eau près des quais de Garonne. Le principal suspect a été abattu par la police alors qu'il tentait de s'enfuir. Le secrétaire national délégué dans le sud-ouest du syndicat Unité SGP Police, Cyril Janin, raconte l'intervention très délicate.
Se sont approchés de l'assaillant qui avait toujours son couteau en main. Et on est dans une zone qui est très fréquentée, avec beaucoup de touristes. À cette heure-ci, peut y avoir encore des enfants. Hein. Donc l'individu s'approchant avec le couteau des policiers. Et en plus, on avait une cycliste qui passait par là. Donc les policiers ont fait usage de leur arme, tout en sachant que l'individu avait déjà utilisé à au moins 2 reprises son arme blanche contre 2 victimes.
Pas de motif clairement établi pour le moment, mais le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Une adolescente de 13 ans et demi a été agressée par 4 collégiens dans le bus qui la conduisait en classe dans le Bas-Rhin. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle ne respectait pas le jeûne du Ramadan et aurait été légèrement blessée avant-hier. L'agression inquiète la petite commune d'Arenheim, à peine 2000 habitants, où s'est rendue Lucille Pascanet.
Tous les jours, le fils de Julie prend le bus scolaire pour aller au collège Paul Werner d'Arenheim, comme cette adolescente qui s'est fait agresser mardi matin après avoir mangé dans l'autocar pendant le Ramadan.
Je suis en colère et en même temps, ça fait peur. Je pense que ça peut arriver à cette petite, mais aussi à mon fils et à tout le monde, et pour n'importe quel sujet. Moi, ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, on parle de la fin du Ramadan, mais ça peut être juste pour une paire de chaussures ou juste pour un mot de travers. Donc, effectivement, ça devient de plus en plus effrayant. On n'est plus à l'abri nulle part, je pense, et... du coup, c'est de plus en plus inquiétant.
Ce désarroi, le maire du village, Valentin Rabault, le partage face à l'agression verbale et physique de cette jeune fille qui choque cette petite commune paisible.
Nous ne nous reconnaissons pas dans ces incidents qui se trament sur fond religieux et nous ne les vivons pas au quotidien, si bien que nous sommes surpris. Évidemment, nous condamnons quelque agression que ce soit. Est inacceptable et ne peut pas être justifié.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Strasbourg pour établir exactement les propos tenus dans le bus et surtout identifier les 4 mineurs mis en cause.
À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, c'est aujourd'hui que doit se tenir l'autopsie du jeune Zakaria. L'adolescent de 15 ans a été poignardé à mort dans la nuit de mardi à mercredi pour s'être interposé dans une bagarre survenue dans le quartier de la Monnaie. Un suspect est entre les mains de la police, 2 autres sont toujours recherchés. Des jeunes de 23 ans, justement, c'est le profil type des 50 000 émeutiers qui sont descendus dans les rues l'été dernier durant la vague de pillage entre le 27 juin et le 3 juillet. La commission des lois du Sénat a dressé le bilan, 1 milliard d'euros de dégâts. Dans son rapport, les parlementaires font 25 propositions au gouvernement, notamment la fin des mortiers d'artifice détournés et vendus illégalement. Inès Zegloul.
Oui, aujourd'hui, la vente de ces mortiers d'artifice est très encadrée. Certains sont même réservés aux professionnels et pourtant...
Le commissariat de Champigny-sur-Marne qui est assez souvent attaqué, c'est à coups de mortier. Sur les manifestations, il y a du mortier.
Acheté généralement en ligne, détaille Loïc Valder, délégué national UNSA Police, sur le marché parallèle.
Telegram, Snapchat ou autre, les personnes arrivent assez facilement à s'en procurer aujourd'hui.
Alors, pour endiguer le phénomène, les sénateurs veulent que l'acquisition d'un mortier soit conditionnée par le passage physique chez le vendeur. S'ajoute mettrait à ça un système de traçabilité.
Le type qui vend des artifices devra déclarer d'une part à qui il a acheté ces artifices.
Et d'autre part à qui il les vend efficace, hein, selon Bernard Déhomme, président du syndicat de la pyrotechnie.
Ça sera informatisé, donc le logiciel contrôlera toutes ces déclarations. S'il y a une incohérence, il communiquera aux forces de l'ordre où ça va pas bien. Je pense que là, les gens qui vendent des artifices vont prendre beaucoup de précautions. Ils seront sur la corde raide.
Enfin, toute transaction suspecte devra être déclarée, sans quoi le vendeur s'exposerait à une amende allant jusqu'à 1500 euros.
Une élue de la République a passé sa première nuit en prison. Djamila Absaoui, maire d'hiver gauche d'Avallon dans l'Yonne, mise en examen et placée en détention provisoire pour trafic de stupéfiants. 70 kilos de cannabis avaient été découverts à son domicile le week-end dernier. 5 autres suspects sont également mis en examen. L'État condamné pour des heures de cours perdues par les élèves de l'Académie de Versailles en raison du non-remplacement de professeurs. Et ce, quelques mois après la polémique du paquet d'heures non remplacées qui avait conduit l'éphémère ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra à placer ses enfants dans le privé. Les parents d'élèves qui ont engagé des poursuites contre l'État se félicitent de la décision, Caroline Philippe.
17 jours sans maîtresse, Hugo est alors en CP.
J'ai senti qu'il perdait le goût de l'école, le goût de l'apprentissage. Il avait pris le rythme de rester à la maison.
Et sa maman, Véronique, s'en inquiète.
On a une accumulation de fatigue et une incompréhension sur le non-remplacement.
2 ans plus tard, la justice reconnaît la responsabilité de l'État dans ses absences et verse à Hugo 150 euros en dédommagement.
Ça m'a permis de clôturer cette année qui avait été compliquée et surtout de reconnaître que ce n'est pas normal, de ne pas avoir une continuité pédagogique. Je ne l'ai pas fait pour le côté financier. Je l'ai vraiment fait pour mettre l'État face à ses responsabilités. Je ne veux pas l'envoyer dans le privé, donc c'est important pour moi le public.
Une décision positive aux yeux de maître Joyce Pitcher. L'avocate du collectif On veut des profs regrette toutefois une indemnisation trop symbolique.
On a besoin vraiment d'attaquer l'État à son portefeuille pour avoir une vraie réaction. On demande la condamnation de l'État à payer aux familles 10 euros par heure d'absence pour les élèves de collège et lycée et 50 euros par journée d'absence pour les élèves de maternelle et primaire.
D'autres audiences sont attendues, dont une le 30 avril à Besançon.
Créer l'exploit. Voilà à quoi est condamné le Paris Saint-Germain pour le match retour. Mené à la pause, 1-0, le club de la capitale a pris l'avantage en seconde période mais a fini par s'incliner face au Barcelone. Au FC Barcelone de 3 au Parc des Princes, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. L'entraîneur parisien Luis Enrique se projette déjà sur le match retour avec beaucoup d'ambition.
On a fait un très bon match contre un très bon adversaire. Tout reste ouvert. On va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie en étant très ambitieux. Pour nous, ce sera comme une finale et j'ai confiance dans mon équipe. Le foot, c'est comme ça. Le Barça a fait un bon match, bravo à eux. Mais on va aller à Barcelone pour nous battre.
Rendez-vous donc à Barcelone mardi prochain pour le match retour. De son côté, l'Atlético Madrid a battu le Borussia Dortmund 2-1 en Espagne. Ce soir, il est la Ligue Europa à Lisbonne. Quart de finale aller entre le Benfica et Marseille à 21h. Un match à vivre à 21h. Et puis, je vous parle de cette compétition surprenante en France, le championnat de France de planche apéritive. 2e édition, c'est un Girondin qui l'a remporté, un Girondin, Simon Fort, qui s'était inscrit pour rigoler. Il a fondé son traiteur Mazette à Bordeaux avec sa campagne il y a seulement 4 ans. Il ne connaissait pas d'ailleurs l'existence de cette compétition il y a seulement quelques mois. À Noël, en famille, il s'est demandé si le concours de la planche apéro ça existait. Il s'est inscrit. Très sérieux, hein, 3 épreuves, il faut composer une planche classique avec uniquement de la charcuterie, une planche
imposée. Mais c'est sérieux la planche apéro.
Mais oui, mais Thomas, c'est une vraie tradition. Hein.
Bah, bien sûr.
En France, voilà. Et puis une autre sur le thème de l'Italie, une autre planche libre. 25 minutes planche au total. Voilà, freestyle, vous mettez ce que vous voulez. Sont jugés l'esthétique des planches, les associations de saveurs, le respect des produits et la saisonnalité.
Et bah, bravo à lui. Même si, bon, je dois reconnaître que je trouve que c'est un peu aussi une escroquerie inventée par les.
Ça peut atteindre les bars.
Non, 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 on n'est pas un resto, on fait juste des petites planches apéro. On se retrouve à payer 24 balles pour, pour 3 petits trucs. C'est pas parce qu'il y a une planche que ça doit coûter plus cher, quoi. Voilà,
c'est ça.
Bref, vaste débat, la planche apéro. J'aimerais aussi avoir les pronos de la Dream Team parce qu'il y a le quintet qui se déroule sur l'hippodrome d'Auteuil tout à l'heure, 13h55.
Et les pronostics de la Dream Team RMC, l'outsider numéro 7, Aléric, le favori numéro 12, Mamix Passion, le favori le 12, l'outsider le 7, les courses à vivre en direct sur RMC Découverte.
C'est bien noté, et tout de suite à 5h39, Thomas, Estelle, on va voyager direction l'île de Tenerife, parce qu'on va accueillir Gina au 32-16. Bonjour Gina.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Salut Gina, qui nous a écrit sur Direct Studio, c'est la magie de l'appli RMC, le matin on nous écoute en France certes, mais dans le monde entier. On voit ça, vous êtes bien à Tenerife, hein, c'est ça Gina, je dis pas de bêtises.
Oui, non, tout à fait, je suis aux îles Canaries, et je suis bien à Tenerife.
À Tenerife. Avec RMC.
Quelle heure il est?
Oui. Il est 4h39.
Oh là, oui, lève-tôt ou couche-tard. Très matinal, voilà, Gina. Mais faites-nous rêver un peu. Vous avez quel âge, Gina? Vous êtes retraitée, si j'en crois l'affiche que j'ai sous les yeux.
Oui, j'ai 62 ans.
Mais du coup, vous êtes en voyage à Tenerife, là, ou c'est la retraite à Tenerife?
Non, pas du tout. C'est la retraite à Tenerife.
Oh, c'est sympa.
Oh, le rêve.
Oui, j'ai décidé, comme ça, de venir à Tenerife. C'est-à-dire, j'ai visité, j'ai pris une semaine je connaissais pas du tout, de vacances chez l'habitant. Là, j'ai loué une chambre. Je regardais un peu comment que ça se passait. Tout ça, ça me plaisait bien. Donc, en fait, j'habitais Fréjus, dans le sud de la France. Oui. À la base, je suis strasbourgeoise. J'ai quitté Strasbourg vers l'âge de 40 ans avec mes fils. Ensuite, je me suis installée à Fréjus. Mm-hmm. J'étais secouriste, tout ça, Fréjus, sauveteur en mer, etc. à la SNSM.
Ouais.
Et voilà, à la retraite maintenant. Donc, j'ai continué en fait de bouger. Bah. Et voilà, je suis partie à Tenerife.
Et le coup de cœur pour Tenerife, non mais bah Gina, oui. Vous avez suivi le soleil toute votre vie en fait, de Strasbourg à Tenerife en passant par Fréjus.
En fait, oui.
Bah non, mais c'est super et vous profitez de Tenerife.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai pris ma voiture, ma chienne, j'ai vendu tous mes meubles et puis voilà, je suis partie vraiment.
Mais c'est génial, voilà, Gina. Et donc un bout de France avec RMC tous les matins pour vous réveiller. Bah c'est super. On est ravis de vous savoir avec nous depuis Tenerife tous les matins. Je dis qu'on est tous ensemble, mais c'est même au-delà des frontières grâce à l'appli RMC. Merci Gina d'être passée par le 32-16.
Alors
bon, Gina, maintenant que vous vivez plus ou moins en Espagne, entre le PSG et Barcelone, j'ose pas vous demander.
Barcelone.
Ah là, malheureusement. Mais je comprends. C'est le coup de foudre pour l'Espagne. Je comprends, je respecte. Gina, lève très tôt même avec RMC, puisqu'à Tenerife, donc, on l'entend, il y a une heure de moins. Merci Gina d'être passée nous faire un petit coucou ce matin au 32-16 depuis le bout du monde. Vous n'hésitez pas, vous aussi, sur Direct Studio au 32-16 à venir vous installer quand vous voulez sur RMC le matin. On se réveille tous ensemble et on vous fait gagner.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et oui, tous les matins, on vous pose une question d'actu pour remporter des beaux cadeaux. Alors attention, quelle est la question ce matin, Estelle?
Sur quel score s'est imposé Barcelone hier soir face au PSG?
Malheureusement, vous avez la réponse. Et dans ce cas-là, vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne dès 6h20 pour gagner donc un radio réveil dernier cri de la marque Muse.
Allez, et puis je vais être gentil. Malgré la défaite du PSG, je vais vous envoyer aussi la coque RMC.
C'est
si
cadeau.
Vous avez la bonne réponse, c'est cadeau. Si vous envoyez tout de suite actu par SMS, 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore, à découvrir sur muse-europe.com.
Les indiscrets RMC.
Les indiscrets, les coulisses de l'actualité le matin sur RMC. On retrouve Sébastien Krebs du service politique. Bonjour Sébastien.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Bonjour.
Et Sébastien, c'est une info RMC que vous nous révélez ce matin. Le gouvernement envisage d'autoriser la police à pratiquer des tests salivaires dans la rue pour détecter les fumeurs de cannabis. Et ça fait déjà débat au sein de la majorité.
Oui, depuis que le Premier ministre l'a évoqué en petit comité, selon nos informations, c'était lors d'un dîner mardi soir avec quelques parlementaires à Matignon. Ça a fait l'effet d'une bombe, témoigne une participante qui n'était pas la seule à exprimer sa surprise autour de la table. Il faut dire qu'aujourd'hui, les policiers pratiquent ces tests salivaires lors de contrôles routiers pour détecter la drogue au volant, mais pas sur n'importe quel passant dans la rue. C'est pourtant bien l'idée sur laquelle le gouvernement avance. Plusieurs sources évoquent des annonces en préparation pour la semaine prochaine. Et c'est vrai que l'idée interroge dans le camp présidentiel. L'autorité, l'ordre, oui, mais attention aux effets d'annonce, craignent certains, si cette mesure est inapplicable. Je ne vois pas comment un policier arrête des gens comme ça dans la rue, réagit un député. Légalement, ça ne tient pas, dit-il. De fait, plusieurs magistrats contactés par RMC ont le même type de questionnement, sans compter les limites de ces tests qui détectent tout autant le CBD, par exemple, qui lui est bien légal. Bref, dans la majorité, on anticipe déjà un casse-tête et un vif débat. Le gouvernement, lui, assume de vouloir serrer la vis sur les consommateurs, à l'opposé de la légalisation décidée en Allemagne, mais aussi au Canada, où Gabriel Attal vient justement d'atterrir.
Merci Sébastien. Sébastien Krebs, info du service politique d'RMC. Sébastien Krebs et Hélène Terzian, merci à tous les deux.
RMC, Charles Matin.
6h moins le quart, c'est votre bande qui vient de se réunir autour de la table. On va parler foot, mais pas du PSG dans la Story Sport, n'est-ce pas Alex ?
Salut tout le monde, oui. À quoi ressemblerait le foot sans supporters ? C'est une question que je vous pose ce matin. On va tenter d'y répondre ensemble dans la Story Sport.
Il y aura aussi C'est déjà demain avec Anthony Morel.
Des innovations médicales aujourd'hui au service des malades de Parkinson. Des choses qui vont leur changer la vie, réellement.
Le bonus d'Estelle.
Plusieurs personnalités du monde de la culture vont être décorées ce soir à l'Elysée.
Et tout de suite, c'est Christian qui vient témoigner avec nous au 32-16. Depuis le Var. Tiens, Christian, qui veut parler justement de la violence, de l'hyper-violence entre ados en ce moment un peu partout en France. Ça fait réagir Christian, il s'installe dans un instant avec nous sur RMC.
RMC, Charles Matin,
Charles Magnin.
À 5h46 sur RMC, toute la bande est là, le sport avec Alex Biggerstaff, le bonus d'Estelle dans un instant, on va aussi avoir des innovations de la tech avec Anthony, mais tout de suite c'est Christian qui s'installe avec nous depuis le Var. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour Charles, bonjour la bande.
Bonjour Christian. Salut, Christian. Bah, Christian qui rejoint la bande ce matin. Christian, ce qui vous a fait réagir, c'est que vous vouliez témoigner au sujet de la violence des ados. On en parle ce matin, on a ce sondage des labs, vous avez suivi évidemment. J'allais dire les faits divers, les drames des derniers jours. Je vais pas Samara, Chemsedine, encore cet ado tué il y a deux jours du côté de Romans-sur-Isère, des victimes et des auteurs présumés très jeunes. Cette violence des ados qui inquiète les Français, hein, 80% des parents inquiets. Et quand on interroge les Français sur les causes de cette violence, ils pointent d'abord la responsabilité des parents. Est-ce que c'est le cas pour vous, Christian ? Est-ce que ce sont des parents qui sont de moins en moins responsables, des parents qui démissionnent ?
Enfin, ça, c'est mon avis, effectivement. Pas d'expert, forcément, parce que je n'ai pas d'enfant. Je suis un vieux célibataire, mais bon, quand je regarde ce qui se passe autour de moi, et puis les émissions telles que Super Nanny, la difficulté d'élever des enfants, d'avoir des enfants, de les éduquer, c'est sûr que ce n'est pas facile.
Oui, mais Christian, ça a toujours été le cas, ça. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Oui, mais ça a toujours été le cas. Ça n'a jamais été simple d'élever des enfants.
Ce qui a changé aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les portables. C'est une génération, moi j'ai 64 ans, un peu comme Gina, votre autre autrice d'ailleurs. Et moi, je trouve que les réseaux sociaux ont tout fait basculer, dans tous les cas, sur les portables. C'est une addiction, c'est une drogue. Le portable, c'est une drogue, comme pour tout le monde, je pense, hein, en grande partie.
C'est une drogue que les parents leur ont mis entre les mains. Et ensuite, on perd un peu le contrôle.
Les ados sont par excellence des êtres difficilement émotionnellement contrôlables. Mmh. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne peuvent pas contrôler leurs émotions. Ça donne ce genre de d'explications violentes entre eux, ça a toujours existé, mais les portables, les réseaux sociaux donnent une dimension encore plus grande à tout ça. Et donc, il faut absolument que les parents contrôlent les enfants, contrôlent leur portable, sachent ce qu'ils diffusent entre eux et contrôlent tout ça.
Que les parents reprennent le contrôle et notamment sur ce qui se passe sur les écrans de leurs enfants.
Ouais, et surtout le fait que, moi j'entendais ça il n'y a pas longtemps, je sais plus, le témoignage d'une mère, etc., qui disait qu'elle avait peur que son enfant ne l'aime plus. Ça, c'est complètement démissionnaire.
Que son enfant ne l'aime plus, oui.
C'est la peur que les enfants ne les aiment plus s'il y a un contrôle, s'ils furtent dans leur portable.
Oui, on entend.
C'est complètement démissionnaire.
C'est un peu l'enfant roi. On n'ose pas s'opposer à son ado. Oui. Il y a aussi ces questions, évidemment. Mais on en revient à l'autorité, parce qu'on parle beaucoup de l'autorité de l'État, l'autorité de l'école. Mais en premier lieu, celle des parents, qui semble absente. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ce sondage. Et c'est aussi ce qui ressort de votre témoignage, Christian. Merci d'être avec nous. Christian, ça va forcément faire réagir ce que vous dites. Est-ce que les parents sont les premiers responsables aujourd'hui quand on voit ce déchaînement de violence chez les ados ? Vous venez nous le dire. Est-ce que vous êtes d'accord pas avec ce que vient de dire Christian, n'hésitez pas, le 32-16 est ouvert, on va écouter vos témoignages. Et puis Christian, on a aussi plein d'infos à partager avec vous ce matin, maintenant que vous avez rejoint la bande, bah évidemment vous allez participer avec tout le monde. Je vous propose qu'on commence avec de l'espoir un peu ce matin, parce qu'on parle de choses parfois difficiles, mais on a ce matin avec Anthony de l'espoir, des innovations révolutionnaires à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Anthony, tu nous présentes ces innovations qui vont faciliter la vie des patients.
Oui, parce qu'il faut rappeler que la maladie maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, donc elle ne se soigne pas. On peut agir sur les symptômes. Et l'un des symptômes les plus pénibles, eh bien, ce sont les tremblements incontrôlables de la main, de la tête, des jambes. Alors, on commence à voir arriver des technologies qui permettent de limiter cette gêne, même si en France, c'est un peu compliqué de se les procurer. Moi, j'ai croisé récemment sur un grand salon technologique un truc incroyable. Ça s'appelle les gyrogloves. C'est une paire de gants censés supprimer, ou en tout cas limiter fortement les tremblements. Alors, c'est assez étonnant. Donc, c'est des gants un petit peu encombrants parce que tu as de la tech à l'intérieur. Donc, tu as notamment une sorte de galet à la surface des gants. C'est en fait un gyroscope qui va compenser les tremblements en temps réel. C'est-à-dire qu'en gros, si ta main, tu as des micro-mouvements qui partent vers la gauche, eh bien, ça la ramène de force vers la droite. Et en fait, en les utilisant, bah, tu peux retrouver une liberté de mouvement. Tu vas pouvoir, je sais pas, boutonner une chemise, écrire, tenir une tasse de café sans en renverser partout.
Tu reprends le contrôle.
Tu reprends le contrôle. C'est exactement ça. Ça change la vie. Alors, le gros bémol de cette technologie, c'est que, un, elle n'est pas encore disponible en France. On peut se la procurer sur Internet, mais du coup, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et ça coûte 5000 euros. Donc, c'est hyper cher pour l'instant. Donc, mon conseil, c'est vraiment discuter avec votre médecin.
Vivement que ça se démocratise.
Exactement. En fait, ça va se démocratiser, mais c'est de l'espoir, on va dire. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait prêt, quoi.
Et puis, tu as une appli qui existe déjà et qui va aussi aider les patients au quotidien quand ils vont sur Internet.
Absolument. Pour pouvoir lire quand on a une tablette entre les mains. Donc, là encore, quand on tremble, c'est pas forcément évident. Une application qui s'appelle Stable, STAYBL, qui fonctionne en fait, qui va, recentrer l'écran malgré les tremblements. C'est-à-dire que tu vas avoir en fait toujours le navigateur Internet en face de toi, dans ton champ de vision, même si la tablette bouge vers la droite, vers la gauche, même si ça tangue, en gros, c'est toujours tout droit pour toi. C'est très très malin, ça fonctionne très bien. Alors le seul problème, c'est que ça ne fonctionne que sur les iPads. Pour l'instant, on peut espérer qu'il y ait une version sur Android et puis sur les smartphones qui sortent bientôt. Mais en tout cas, je la trouve formidable dans le principe, cette application. Donc Stable, STAYBL.
C'est important de bien le donner. Et puis si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de problème, il y a le podcast évidemment sur l'appli RMC de C'est Déjà Demain, de l'espoir, de la tech au service des malades de Parkinson. De l'espoir, il y en a aussi du côté de Marseille. Alex, c'est ta story sport. Bah oui, l'OM qui se déplace ce soir à Lisbonne pour défier le Benfica, quart de finale aller de la Ligue Europa. Sauf que les supporters de l'OM n'auront, à ce stade en tout cas, pas accès à l'enceinte, pas accès au stade.
Tout remonte à mardi, lorsque le club portugais a reçu l'information que les autorités françaises allaient émettre un arrêté préfectoral interdisant les supporters portugais lors du match retour le 18 avril à Marseille. Alors si l'arrêté n'est pas encore publié, c'est une manière de se laisser un délai supplémentaire et surtout d'attendre la validation de l'interdiction de déplacement des supporters portugais par le ministère de l'Intérieur.
Et cette menace, ça donne le sentiment du côté de Lisbonne que les fans du Benfica seront à coup sûr interdits de déplacement. Les Portugais ont donc voulu appliquer un principe de réciprocité.
Eh oui, je te fais mal, donc je te fais mal aussi. Je vous propose d'écouter le président de l'OM, Pablo Longoria, hier au micro de Flo Germain pour RMC.
Respectez les gens. Ils sont payés en voyage, ils sont payés des billets, ils ont déposé beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. C'est inacceptable ce qui se passe. Je n'assisterai pas au match si les supporters de l'Olympique de Marseille ne seront pas au stade.
Eh oui, 3000 billets avaient été réservés aux fans de l'OM et certains sont déjà sur place.
Donc il y a des fans de l'OM qui sont à Lisbonne et qui ne savent pas rentrer. Ouais. Ils ne savent pas à ce stade s'ils pourront rentrer. Les dirigeants marseillais ne désespèrent pas qu'une issue positive soit trouvée. On continue ce matin de négocier en coulisses.
Eh oui, j'ai déjà évoqué ce sujet en story et je vais me répéter. À toujours vouloir punir l'ensemble pour une minorité, les pouvoirs publics ont pris l'habitude de déplacer le problème, toujours le même, au lieu de le comprendre et de l'encadrer. On est sur une logique match de foot égale supporter égale violence. Mais si on vivait avec cette logique dans la vie, on ne se déplacerait plus car route égale voiture égale accident. Ah oui. On ne voterait plus car élection égale politique égale menteur. La liste des généralités, elle est infinie. La préfecture de police a les clés de ce dossier. Mais si vous me demandiez à quoi ressemblerait le foot sans supporters, eh bien autant se demander à quoi ressemblerait un pays sans citoyens.
Hier soir, il y avait des milliers de Barcelonais au Parc des Princes.
Tout s'est bien passé. Vous y étiez.
J'y étais, ils sont très sympas. On a évoqué nos mamans respectives à distance en criant dans le stade. Mais ça, c'est le jeu, c'est le chambrage. Et oui, on va accueillir les JO, on peut accueillir quelques supporters portugais à Marseille dans une semaine. Bon, on espère en tout cas pour les supporters marseillais qui ont fait le déplacement qu'ils pourront rentrer ce soir au stade. Un match à vivre évidemment ce Benfica OM 21h en direct de Lisbonne sur RMC. Et puis Estelle, ton bonus direction l'Elysée, car plusieurs personnalités vont être décorées ce soir.
Et oui, commençons en musique avec le compositeur Vladimir Kosma. L'homme des musiques de films cultes, Rabbi Jacob, La Chèvre, L'Aile ou La Cuisse, va être promu donc au grade d'officier de la Légion d'honneur. Même distinction pour Sheila.
Vous
les copains, je ne vous oublierai jamais.
Elle était déjà chevalier, elle sera désormais officier de la Légion d'honneur, distinguée pour sa carrière de chanteuse, mais également en tant que présidente d'honneur d'une association de lutte contre le sida. Et puis, autre personnalité indistinguée ce soir, Thierry Ardisson, qui sera quant à lui fait chevalier pour ses activités en tant qu'animateur et producteur de cinéma et de télévision. Et puis, selon le Parisien, l'humoriste Maine sera lui aussi décoré ce soir. Ils font tous partie de la promotion 2023 de la Légion d'honneur qui compte en tout 358 personnalités.
Oui, c'est une drôle de promo, oui, ça fait sourire autour de la table. Et oui, Smaïn, Thierry Ardisson, Sheila, ou encore Vladimir Cosma pour cette cérémonie de la Légion d'honneur ce soir à l'Elysée. On va remercier Christian qui lui aussi mérite la Légion d'honneur. Christian au 32-16. Christian, merci d'être venu témoigner ce matin. On vous souhaite bonne journée avec RMC, je le sais, Christian, fidèle du matin.
Je voulais juste un dernier mot, si vous voulez bien vous féliciter d'être venu au stade et d'avoir affronté la menace Daesh. Et de toute façon, il ne fallait pas effectivement renoncer à un match. Et c'est ce qu'il faut faire et continuer de faire. Et malgré tout, on s'en sortira quoi qu'il en soit.
Faire confiance à nos forces de l'ordre, Christian, vous avez raison, et pas question de céder aux menaces. Vous avez bien raison, Christian. Pas de raison de ne pas aller au stade hier soir. Merci, Christian, d'être venu témoigner sur RMC en direct. On continue dans un instant avec votre journal de 6h. Soyez bien là, ça se passe sur RMC à la radio et RMC Story à la télé. C'est parti, vous pouvez allumer le canal 23 de la TNT. Excellent réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct, c'est votre journal, présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un mort, un blessé et l'assaillant abattu par la police. Voilà le bilan de l'attaque au couteau survenue hier soir sur les quais à Bordeaux. La piste d'une rixe est privilégiée ce matin. La mère d'Avalon, dans l'Yonne, mise en examen et placée en détention provisoire hier soir après la découverte de 70 kilos de cannabis à son domicile. Et la grande déception pour Paris, battu 3-2 par le Barça hier soir en quart de finale aller de Ligue des Champions.
Et puis 1 milliard d'euros. Voilà ce qu'ont coûté les dégâts des émeutes il y a près d'un an suite à la mort du jeune Naël. Rapport publié par le Sénat. Comment réagir en cas de nouvel embrasement? On appelle le maire de Mantes-la-Jolie. C'est mon invité juste après votre journal, Quentin. C'est en plein cœur de Bordeaux qu'a eu lieu l'attaque au couteau hier soir.
Oui, c'est près de l'emblématique miroir d'eau qu'un assaillant dont on ignore l'identité s'en est pris à deux Algériens, faisant un mort et un blessé hier soir avant d'être abattu par la police, hein, Pierre Bourget, Sameline Lafchin.
Oui, au miroir d'eau, en centre-ville, le long de la Garonne, là où de nombreux Bordelais se baladaient hier à cette heure-là. Salomé était en train de boire un verre avec une amie. Elles ont assisté à la scène.
Mon amie a vu quelqu'un se faire plaquer au sol. Moi, j'ai vu une autre personne tomber dans les bras de quelqu'un. Et là, on a vu un mouvement de foule de gens autour.
À terre, deux hommes, dont un de 37 ans, qui succombe à ses blessures sous les yeux de ses proches.
J'ai vu des gens autour de lui. Il y avait, je crois, un mec pour arrêter l'hémorragie. J'étais paniqué.
L'assaillant tente de fuir par les quais, mais il est vite repéré par la police qui l'abat quelques centaines de mètres plus loin. Sur son chemin, il croise Camille qui faisait son footing.
J'allais dans le sens opposé de cette personne-là et 30 secondes plus tard, j'entends trois coups de feu. J'ai vu cet homme au sol avec la police à ses côtés qui ont commencé à faire un massage cardiaque. La police a été très prévoyante. Ils ont attendu que les coureurs comme moi s'éloignent un petit peu pour pouvoir mettre en place leur champ d'action.
Le parquet de Bordeaux a été saisi de l'affaire. Pour le moment, la piste d'une bagarre qui a mal tourné est privilégié.
L'autre information de la soirée, c'est donc la mise en examen et le placement en détention provisoire de la mère d'Avalon dans l'Yonne, mère qui avait été arrêtée avec 5 autres personnes après la découverte de 70 kilos de cannabis à son domicile. C'était le week-end dernier, Benjamin Smadja.
Oui, le procureur de la République à Auxerre l'a confirmé hier soir. L'enquête a permis de mettre en cause deux frères de Jamila Absaoui comme pouvant se livrer à l'achat et à la revente de produits stupéfiants à partir du domicile de leur sœur. On le rappelle, les nombreuses perquisitions menées principalement au domicile de la mère d'hiver gauche d'Avalon et dans la pharmacie où elle travaille ont permis la saisie de 70 kilos de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, plus de 7000 euros en espèces et deux lingots d'or. Il y a quelques jours, l'avocat de l'élu déclarait que sa cliente était abasourdie et qu'elle n'avait strictement rien à voir avec les faits reprochés. Dès hier soir, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé qu'elle suspendait Djamila Absaoui de son poste de conseillère régionale. Contactée par RMC, une élue LR d'opposition à la mairie demande, elle, la mise en retrait de Djamila Absaoui du mandat qu'elle exerce depuis 2021.
Peut-être un nouveau scandale dans la police à Marseille. Les locaux de l'office anti-stupéfiants chargés de démanteler les gros trafics ont été perquisitionnés, c'était la semaine dernière, par la police des polices, l'IGPN, dans le cadre d'une affaire de corruption présumée, selon le journal Le Parisien. Les recherches sont levées au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, 10 jours après la découverte du crâne petit Émile. Dans l'enquête sur sa disparition et sa mort, les ossements et les vêtements retrouvés seront désormais analysés dans la suite des investigations. Le parquet de Besançon a requis la relaxe de Jonathan Daval, 7 ans après le meurtre de son épouse Alexia. Lui qui est de retour au tribunal depuis hier pour avoir à l'époque accusé sa belle-famille, Marion Dubreuil.
La famille d'Alexia Fouillot a quitté le tribunal déçue. Le procureur a estimé que les mensonges de Jonathan Daval étaient bien condamnables sur le plan moral, mais pas sur le plan pénal. Il a donc requis sa relaxe. Stéphanie Fouillot, la sœur d'Alexia.
À travers tout ce qu'il a fait, cette dénonciation calomnieuse, on est 4 victimes, et même plus, toute la famille Fouillot élargie. Nous sommes des victimes. Ce qu'on aimerait que la justice dise, c'est... Oui, c'est vrai, vous avez été victime de ce monsieur, vous aussi.
Jonathan Daval s'est excusé face à son ex-belle-famille et il a rappelé qu'il les a accusés du meurtre d'Alexia quand il était en détention provisoire, prêt à tout pour sortir de prison. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer.
Il est parfaitement conscient du mal qui a été fait, qu'il leur a fait. À la cour d'assises, il n'a fait qu'une seule chose, c'est demander pardon à la famille d'Alexia. Il a dit aussi une chose très importante, il aimerait qu'on tourne la page.
La décision qui sera rendue le 24 mai prochain sera peut-être le point final du dossier Daval.
Au moins un blessé en urgence absolue dans l'incendie désormais maîtrisé d'une usine Seveso qui s'est déclarée hier après-midi à 7 au niveau du port de commerce. Explosion plus incendie à l'origine d'un impressionnant panache de fumée noire. On sort la calculette ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver 10 milliards d'euros supplémentaires en 2024. En plus des 10 milliards d'euros d'économies déjà annoncées, ça fera 20 en tout pour rester dans la trajectoire du gouvernement qui prévoit un déficit public à 5,1% du PIB cette année au lieu des 4,4% qui était annoncé après le dérapage aussi de 2023. Ça fait beaucoup de chiffres. Romain Cluzel du service politique à RMC. Les oppositions sont vent debout.
Trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires, dont une bonne partie dans le budget de l'État, la tâche s'annonce quasi impossible pour l'insoumis Éric Coquerel, président de la commission des finances.
Les ministères, ils sont à l'os. Voilà, c'est pas si facile de trouver 10 milliards. C'est le constat d'un échec de leur politique.
Et face à un tel changement de budget, il n'y a pas le choix.
Je ne vois pas comment tout ça se fait sans projet de loi de finances rectificatif.
Même demande pour le socialiste Philippe Brun, qui regrette un manque de transparence du gouvernement.
On nous dit on va geler des crédits, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, parce qu'on ne peut pas en discuter devant le Parlement. Est-ce qu'on veut moins d'enseignants ? La réponse est non. Est-ce qu'on veut moins d'infirmières et moins d'aides-soignantes ? La réponse est non. Est-ce qu'on veut moins de policiers et moins de gendarmes ? La réponse est non.
C'est surtout le déficit bien plus important que prévu qui inquiète la députée Les Républicains Véronique Louwagie.
Nous avons eu un dérapage en 2023, un petit peu moins de 20 milliards. Et finalement, nous avons la même chose en 2024. On a l'impression qu'il n'y a pas de prise en compte de la situation qui est catastrophique au niveau de nos finances publiques.
Pour elle, comme pour les autres groupes d'opposition à l'Assemblée, l'objectif du gouvernement de passer sous la barre des 3% de déficit en 2027 semble désormais illusoire.
Et puis, à 6h06 sur RMC, le Paris Saint-Germain est au pied du mur ce matin. Paris qui a perdu 3-2 contre Barcelone hier soir en quart de finale de Ligue des Champions. C'était le match aller au Parc des Princes. Vous avez vécu ça sur RMC. Il y aura le match retour mardi prochain. Les Parisiens étaient menés 1-0 à la mi-temps. Ils pensaient avoir renversé le match avec 2 buts d'Ousmane Dembélé et de Vitinha en 3 minutes à la reprise avant d'en encaisser 2 autres du Brésilien. Rafinha notamment qui a mis un doublé pour le Barça. Et alors côté parisien, Kylian Mbappé a été quasiment transparent, Valentin Jamin.
À la fin de la rencontre, Kylian Mbappé quitte la pelouse visage fermé après s'être jeté sur un dernier centre, trop juste, comme sur l'ensemble de son match qui a agacé les supporters.
Ah, Mbappé inexistant, hein, il s'est caché tout le match, il a voulu faire des différences tout seul, il n'y arrivait pas. Pour moi, il est déjà à Madrid, dans sa tête, il est déjà à Madrid.
Je ne l'ai pas vu, je comprends pas pourquoi il n'est pas sorti.
C'est une cata, j'ai l'impression qu'il n'est plus là, qu'il n'a plus envie.
Aucun tir cadré, 13 ballons perdus, seulement un quart de ses duels gagnés. Peu de repli défensif et de justesse alors qu'il avait annoncé qu'il ne se cacherait pas. Mbappé a semblé éteint. mais en bon capitaine, Marquinhos ne l'accable pas.
S'il était moins précis ce soir, c'est peut-être que le ballon il a pas arrivé en bon moment, en bon timing. L'équipe peut faire beaucoup mieux, et quand l'équipe elle est mieux, c'est normal que les individualités vont s'en sortir après.
L'attaquant sera très attendu à Barcelone dans 5 jours et ça tombe bien. Lors de son dernier passage en Catalogne en 2021, le numéro 7 parisien avait inscrit un triplé.
Et dans l'autre quart de finale, hier soir, l'Atlético a battu Dortmund 2-1. Antoine Griezmann, passeur décisif, notamment le match retour. Également pour l'Atlético, ce sera mardi prochain, ce sera en Allemagne.
Bon, Mbappé, oui, a été transparent hier soir, contrairement à Manu Le Chypre, qui est toujours très présent le matin. Ça va, Manu ?
Oui, très bien.
Petite soirée, hein ?
Peu, j'ai pas vu du tout.
Ah bon ?
Non.
Bon, voilà, il y en a un qui a échoué. Non, mais depuis ce matin, je me fais chambrer, au 32-16.
Oui.
Sur Direct Studio. Enfin, chambrer, je sais pas, on m'envoie des messages de condoléances. Voilà ce que je reçois sur Direct Studio. J'ai salué Mickaël.
Attends, il y a même des Marseillais qui étaient.
Ah oui, j'ai Mario, tiens, qui me dit le Mistral souffle ce matin. Mais j'envoie du courage à Charles. Rien n'est perdu, voilà, il y a de l'espoir.
Ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'ils ont jamais redressé une situation mal partie au premier match.
Oui, mais la dernière fois, il y avait 4-0 à l'aller. On disait, c'est bon, c'est plié. Bah, peut-être qu'il vaut mieux perdre 3-2 à l'aller et puis se qualifier au retour. On verra. Rendez-vous la semaine prochaine. On continue, évidemment, si vous souhaitez. Bah, vous avez suivi ce match hier soir. Vous n'hésitez pas. Le 32-16 est ouvert. Vous l'entendez. Manu Le Chypre est là en pleine forme pour Manu Conso dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est l'heure de jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et oui, tous les matins, vous qui écoutez toute l'info sur RMC, on vous offre des cadeaux, mais pour ça, il faut répondre à notre question d'actu.
Sur quel score s'est imposé Barcelone hier soir face au PSG ?
Et vous êtes malheureusement très nombreux à avoir la bonne réponse. Vous envoyez dans ce cas-là actu par SMS au 732-16. Actu au 732-16.
Si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous dès 6h20 pour gagner un Radio Réveil Dernier Cri de la marque Muse.
Voilà, le Radio Réveil. Et puis j'y ajoute la coque RMC, la coque pour smartphone, elle est pour vous si vous avez la bonne réponse. Si vous envoyez tout de suite actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
1 milliard d'euros, c'est le coût des émeutes suite à la mort du jeune Naël il y a près d'un an. Bilan dressé dans un rapport du Sénat qui formule 25 propositions. Mais sur le terrain, est-ce qu'on a tiré les leçons de ces émeutes ? Est-ce que les quartiers peuvent à nouveau s'embraser à tout moment ? On va appeler tout de suite le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cogné. Sa commune avait été particulièrement touchée lors des émeutes. Il est avec nous en direct tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Excellent réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story à la télé. Il est 6h13.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Raphaël Cogné. Raphaël Cogné, est-ce que vous m'entendez ? Ah, j'ai pas l'impression que notre invité m'entende. Je le vois via Skype, mais j'ai pas l'impression que le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cogné, nous entende. On va essayer de le rappeler en régie, me dit-on. En attendant, on va vous accueillir, vous, au 32-16 ce matin. On va parler des émeutes dans un instant et de ce bilan dressé par le Sénat avec Raphaël Cogné dès qu'on l'aura retrouvé. Mais d'abord, on va accueillir Vincent au 32-16 depuis le Puy-de-Dôme. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour Charles, bonjour à toute votre équipe.
Salut Vincent, merci d'être avec nous ce matin au 32-16. Vincent, merci, tiens, vous, ce qui vous fait réagir ce matin, c'est un peu lié aux émeutes quelque part, mais c'est aujourd'hui cette ultra-violence des ados qu'on constate un peu partout, ces drames, ces faits divers qui se succèdent, des victimes et des auteurs présumés particulièrement jeunes. Vincent, on s'interroge sur la responsabilité des parents ce matin. C'est ce que nous apprend un sondage ELAB. Quand on demande aux Français les causes de cette violence des ados, ils pointent d'abord la responsabilité des parents. C'est ce que vous partagez comme sentiment, Vincent ?
Oui, pour moi, tout le monde est responsable, mais il y a les parents, oui, c'est sûr. Il y a les parents qui lâchent, il y a clairement, faut clairement le dire quand on voit les attitudes, mais des parents... Quand avec des gamins dès le plus jeune âge, où on leur laisse faire n'importe quoi, où ils écoutent pas et compagnie, où on voit que dans des restaurants, on se pointe avec un gamin, on se fait regarder de travers, et limite on se fait féliciter à la fin d'un repas parce qu'on est, on éduque bien son enfant. Oh, je trouve ça juste aberrant, quoi.
Parce que pour vous, c'est l'autorité parentale qui a disparu, c'est ça, Vincent ?
Il y a l'autorité parentale et il y a aussi, ce fait des réseaux sociaux. Mais qui est utilisé à très mauvais escient par tous les gamins. Moi, hier, je vais vous prendre un exemple tout bête. Hier, j'étais avec ma gamine, je suis allé manger en ville avec ma gamine. On était j'avais des gamins de plusieurs typologies qui étaient dans des jeux pour les gamins, justement, mais des ados.
Oui, des grands dans les jeux pour les petits, quoi. Oui.
Personne n'est leur dire quelque chose, ni les responsables des établissements privés ou même publics. Pourquoi? Parce que t'as la trouille maintenant. Je suis désolé, on a la trouille d'avoir un bad buzz ou quoi que ce soit, de se faire filmer, de se retrouver sur les réseaux, alors qu'on a juste, voulu qu'ils respectent les choses.
Oui, on a peur d'être autoritaire, en fait. C'est ça le.
C'est ça. Et le problème, c'est que je vous dirai une chose avec ce qu'on voit ces derniers temps. Qu'est-ce qui me dit que je vais dire quelque chose pour ma fille en n'étant pas méchant? Je vais me retrouver avec le grand frère qui arrive à la sortie, me mettre un coup de couteau pour se mettre sur la tête.
Oui, on a l'impression qu'aujourd'hui, pour un rien, en tout cas, ça peut partir très vite dans l'ultra-violence. C'est vrai que c'est un sentiment qui semble partagé dans ce sondage Elab publié ce matin. Merci Vincent d'en témoigner avec nous ce matin au 32-16. Est-ce qu'on a retrouvé Raphaël Cognier, le maire de Mantes-la-Jolie? Est-ce que vous êtes là? Bonjour.
Oui, tout à fait, bonjour.
Je vous entends très bien, merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est un peu lié aussi à l'actualité, à cette ultra-violence des ados, mais pour la première fois, nous avons un bilan chiffré du coût des émeutes de juin dernier. On parle d'1 milliard d'euros, hein, selon ce rapport de la Commission des lois du Sénat. Alors dans ce rapport, il y a beaucoup de chiffres, hein, il y a tout le constat, il y a aussi 25 propositions pour tirer les leçons de ces émeutes, on va y revenir. Mais Raphaël Cognier, vous qui êtes maire de Mantes-la-Jolie, une des villes les plus touchées en juin dernier par ces émeutes, ça en rappelle, hein, votre mairie avait été incendiée. J'aimerais vous entendre sur la conclusion de ce rapport. Selon les sénateurs, rien ne permet d'affirmer que ces émeutes ne se reproduiront pas dans un proche avenir. Est-ce que vous diriez la même chose ce matin? Est-ce qu'il suffit d'une étincelle pour que ça reparte?
C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir très clairement, et dire que ça ne pourrait pas revenir est absolument impossible. Donc oui, il est possible que ça revienne. Après, il faut aussi comprendre que c'était lié à un événement particulier et que donc tout ça s'est fait extrêmement rapidement. Donc évidemment, ça peut reprendre. Après, tous les jours à Mantes-la-Jolie, je ne me dis pas que le soir même, il va y avoir une émeute. Ce sont des phénomènes très compliqués à anticiper.
C'est compliqué à anticiper, mais alors le Sénat fait des propositions pour éviter que ça se reproduise, mais des propositions un peu d'urgence. En cas de nouvelles émeutes, le Sénat dit il faudrait par exemple couper les réseaux sociaux en cas d'état d'urgence, parce que les réseaux sociaux permettent aux émeutiers de se coordonner. Le Sénat qui propose aussi de limiter la vente des mortiers d'artifice, ces fameux feux d'artifice là qui ont beaucoup servi malheureusement lors des émeutes. Raphaël Cognier, là on est dans des mesures d'urgence, non?
Oui, on est évidemment dans des mesures d'urgence. Vous savez, moi, je suis un libéral, donc tout ce qui restreint les libertés individuelles, a priori, ça ne me plaît pas beaucoup. Mais quand on a vécu ce qu'on a vécu l'été dernier, avec les drames qu'on a vus humains et puis matériels, il est évident que dans ces situations-là, on s'aperçoit qu'il faut des mesures d'urgence pour rétablir le calme, parce que sinon, ceux qui en payent le prix, ce sont les habitants de ces quartiers qui travaillent, qui ont des enfants, qui souhaitent que ça aille bien et qui, lorsqu'il y a des émeutes, sont les premières victimes. Donc oui, il faut des mesures d'urgence, c'est évident. L'interdiction de vente de mortiers est une bonne mesure. Le fait de couper les réseaux sociaux de façon temporaire est, à mon avis, aussi une bonne mesure, parce que beaucoup des événements qui se sont passés via les réseaux sociaux. Après, il faut évidemment des actions de plus long terme et différencier ce qui relève de l'urgence pour rétablir l'ordre et puis après ce qui relève du temps long.
Alors justement, dans le temps long, il y a aussi la réponse judiciaire. Là aussi, le Sénat fait des propositions, voudrait développer les travaux d'intérêt général pour les mineurs, le placement sous contrôle judiciaire des mineurs primo-délinquants. Est-ce que là aussi, vous attendez une réponse judiciaire? Et est-ce qu'elle a eu lieu surtout? Parce que je me souviens de l'incendie de votre mairie. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'un an après, les émeutiers sont connus, j'imagine, dans les quartiers? Est-ce qu'un an après, il y a eu une réponse judiciaire?
Alors, la police a été extrêmement persévérante dans ses enquêtes, hein, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu des réponses judiciaires. Vous dire que toutes les personnes qui ont participé aux événements ont été condamnées judiciairement, je ne peux pas vous le dire. Mais par contre, on a eu de la part des services de police et de justice une réaction exceptionnelle, des jugements rapides et des sanctions qui sont tombées quand les auteurs ont pu être identifiés. Mais ça encore une fois, c'est l'urgence. Moi, je pense qu'une bonne réforme qui serait utile, ce serait que tout au long de la vie de quelqu'un qui commet des actes de délinquance, des sanctions tombent plus rapidement. Après les émeutes, elles sont tombées, parce que la France était dans une stupéfaction. Il y a eu des consignes du garde des Sceaux qui ont été données au procureur pour sanctionner et sanctionner vite, évidemment, quand on avait des éléments. Maintenant, cette réponse pénale ferme et rapide, elle doit être, je pense, systématique. Le problème, c'est pas qu'aujourd'hui, je pense, moi, de mon point de vue, que la justice ne condamne pas. Le problème, c'est que souvent, hors circonstances exceptionnelles, les peines arrivent trop tard par rapport à l'acte de délinquance. Et donc, du coup, on se retrouve en perpétuel décalage entre des gens qui commettent des actes de délinquance et qui, parfois, sont jugés un an et demi, deux ans après. Donc, tout ce qui favorise les travaux d'intérêt généraux plus rapidement, peut-être les petites peines d'emprisonnement, 2, 3, 5, 10 jours, pour éviter la récidive et faire en sorte que, en face de chaque acte de délinquance, il y ait une certitude de sanction pénale, Je pense que c'est aller dans la bonne direction. On peut pas de temps en temps condamner fermement et rapidement et de temps en temps laisser faire et condamner les gens beaucoup trop tard.
Alors justement, il y a la justice après les émeutes, mais la justice aussi face à la délinquance, j'ai envie de dire du quotidien, comme vous le dites, Raphaël Cogné. Je rappelle que vous êtes maire de Mantes-la-Jolie. Vous suivez comme nous les événements, les drames de ces derniers jours, la violence, l'ultra-violence des ados, des victimes et des auteurs présumés particulièrement jeunes. Est-ce que vous le constatez aussi dans votre commune? Comment on répond, quand on est maire, au quotidien, à cette violence? On entendait le témoignage de Vincent à l'instant qui dit « Désormais, avec les jeunes, on a peur que ça parte à tout moment, que ça prenne des proportions incroyables pour des petits faits, mais que d'un seul coup, on sorte des couteaux, qu'il y ait de la violence, qu'il y ait des morts. Comment on y répond au quotidien? Il y a la réponse judiciaire, mais pas que, j'imagine. »
Alors, bien sûr que non, la violence, elle est partout, chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais c'est vrai que c'est d'autant plus frappant quand on voit les faits divers terribles qui sont passés dans notre pays dans les derniers jours. Comment on y répond? Malheureusement, j'ai pas la recette magique. Moi, ce que j'essaie de faire dans ma commune, c'est de faire en sorte que on puisse faire diminuer le niveau de tension globale en faisant en sorte que les gens puissent se parler, puissent se rencontrer, mais de façon extrêmement simple, c'est-à-dire faire du sport ensemble, mener des actions éducatives ensemble. Après tout ça, c'est du temps long, ça n'empêchera jamais un jeune ou un moins jeune de sombrer de façon ultra radicale dans la violence pendant un temps très court et avec des conséquences très fortes. Moi, parfois, des jeunes de 25 ans au Val-Fouré, qui sont maintenant, qui ont une vie normale, familiale, etc., me disent qu'ils ne comprennent plus les jeunes qui ont 12, 13, 14 ans.
J'aimerais pointer avec vous, Raphaël Cogné, la responsabilité des parents. C'est ce qui ressort dans les sondages. Est-ce que vous constatez des ados de 12, 13, 14 ans qui sont devenus incontrôlables, qui ne répondent plus à l'autorité parentale?
Bien sûr, on les constate. On les constate à l'école, on les constate dans nos centres de loisirs de temps en temps. Je le constate parfois, moi, dans mon bureau, quand je reçois des parents qui ont des adolescents, et on voit très bien que c'est l'adolescent qui a pris le pas sur la famille. Donc oui, on le constate. Il y a évidemment une réponse parentale qui doit s'appliquer. Il est évident que quand un ado de 12 ans fait la loi à la maison, les premiers responsables, ce sont les parents. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas en mettant les parents en prison qu'on va régler le problème. Par contre, on peut, nous, éducateurs à côté des familles, appliquer des sanctions et faire en sorte qu'il y ait des accompagnements qui soient faits. Le parent est le premier éducateur de son enfant, c'est une évidence.
Oui, mais c'est important de le rappeler dans le contexte. Merci Raphaël Cogné, maire de Mantes-la-Jolie, d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter ce rapport du Sénat, ce milliard d'euros, c'est le coût des émeutes l'an dernier. Je rappelle que votre mairie avait été incendiée l'an dernier. Merci d'avoir été en direct avec nous. Maire d'Hiver Droite de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cogné, en direct ce matin sur RMC. Il est 6h22.
RMC, Charles Matin.
Tout de suite, votre pouvoir d'achat dans Manu Conso, comme chaque matin sur RMC. Et Manu, on va parler du permis de conduire, les délais, c'est ça, des dates d'examen.
Qui sont très variables selon les départements.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
À 6h24 sur RMC, on repasse le permis avec Manu.
RMC, Manu Conso.
Emmanuel Lechypre, les délais pour obtenir une date d'examen du permis de conduire sont très variables selon les départements.
Oui, et alors ce qui est le plus étonnant, c'est qu'au sein même de chaque région, vous avez des délais qui peuvent aller du simple au triple, sachant qu'en moyenne, c'est à peu près 2 semaines, c'est ce que nous dit le site de passage du permis en ligne en voiture Simone. Alors par contre, dans chaque région, il y a des grosses exceptions. Si vous prenez par exemple Provence-Alpes-Côte d'Azur, il vous faudra 12 semaines. Dans les Bouches-du-Rhône, pour obtenir une date. Dans le Grand Est, il vous faudra presque 3 mois dans le Haut-Rhin. En Nouvelle-Aquitaine, 2 mois en Gironde, Auvergne-Rhône-Alpes. Pareil, on est sur des délais encore dans quelques départements. 1 mois, par exemple, dans le Puy-de-Dôme. Dans les autres régions, on ne dépasse pas 6 semaines, heureusement.
Des énormes écarts, mais comment on les explique?
Essentiellement par le fait qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas assez d'examinateurs. Et c'est embêtant parce qu'évidemment, ça joue aussi sur le prix du permis, puisque le permis, c'est 1200 euros en moyenne. Mais si vous rallongez les délais, vous êtes obligé de repasser des heures de conduite,
jusqu'au dernier moment,
etc. Voilà. Et donc, il faut préciser qu'on peut choisir le département dans lequel on passe son permis de conduire.
Donc c'est important.
C'est par là que je voulais finir.
Exactement.
Choisissez bien votre département.
L'astuce de Manu dans Manu Conso.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Bonjour Mathias.
Bonjour Charles.
Salut Mathias, en Seine-Maritime, Grand Couronne, c'est ça, le veto avec RMC ?
Exactement, toujours, tous les matins.
Tous les matins, et alors attentif à l'actu, à l'info, on va voir, on va vous récompenser si vous avez la bonne réponse à notre question d'actu.
Sur quel score s'est imposé Barcelone hier soir face au PSG ?
Allez-y Mathias.
Alors, Barcelone a gagné sur le score de 3-2.
Malheureusement, c'est la bonne réponse Mathias, je suis obligé de vous dire bravo, bravo. Comme le Barça, vous avez gagné.
Et vous avez gagné donc un radio réveil de la marque Muse.
Voilà, et comme oh là là, comme je suis un bon perdant, je vous rajoute même la coque pour smartphone RMC, Mathias. Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup.
Voilà, merci Mathias. Bah, bravo, bravo, bravo au Barça, bravo à tous. Je suis dépité. Bonjour à Pauline.
Oh, ouais. Dans un piteux état.
Oui, le réveil est douloureux.
Oh là là, le réveil est douloureux.
Mais il y a de l'espoir.
Pas beaucoup, je trouve.
Ah non. D'accord, ok. Eh ben merci pour le soutien.
Je suis surprise justement que ce matin, je trouve les uns et les autres pas beaucoup d'espoir, assez défaitiste quand même.
Si, là je vois Béatrice, un peu d'espoir pour Charles, nous dit-elle sur Direct Studio.
Vous pouvez l'espoir, mais.
Exactement.
Bon.
Et puis moi je suis niçois avant tout, vous savez, le PSG, bon, c'est de temps en temps.
Mais quel traître. Vraiment, c'est quand ça l'arrange, quoi. Vous n'avez pas beaucoup dormi, cela dit.
Non, et j'ai beaucoup crié hier soir aussi.
La voix tient pour l'instant. Voilà. Allez, excellent réveil à vous tous. Il est 6h27 dans un instant. Apolline Matin, on va revenir évidemment sur le PSG. Vous n'hésitez pas à nous appeler, enfin, surtout à appeler Charles, il faut le dire, pour à la fois le réconforter, lui redonner peut-être un peu d'espoir. Et puis à la une ce matin également, un sujet beaucoup plus sérieux, celui de la violence chez les jeunes. On a ce sondage Elab publié hier soir qui nous apprend que les parents sont très inquiets pour leurs enfants. C'est pas surprenant, honnêtement. La majorité des Français se dit aujourd'hui préoccupés par la montée de violence chez les ados. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez été témoin chez vous, dans votre quotidien, de cette montée de violence ? Et puis, qui est responsable ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux ? Est-ce que ce sont les parents qui baissent les bras ? Est-ce que c'est un problème d'autorité ? Le Premier ministre promet d'agir. On vous dévoilera ces quelques propositions aujourd'hui. On analysera aussi la situation avec Alain Boer, qui sera mon invité à 8h30. Essayez de comprendre aussi, en prenant du recul, est-ce que vraiment il y a beaucoup plus de violence ? Est-ce que c'est aussi parce qu'on en parle davantage ? Et vous nous appelez donc d'ici là au 32-16 pour témoigner. Et puis une question à 7h10, est-ce qu'un steak végétal, c'est un steak ? C'est un grand débat et une véritable bataille entre notamment le gouvernement. Alors Manu a tranché, hein, je vois Manu qui fait la...
Il a tranché le steak.
Le steak végétal, pour vous, c'est pas un steak.
Non, mais on peut trouver plein d'autres noms formidables pour donner envie de manger cette chose.
Comme entrecôte.
Cette chose.
Non, mais parce que ça n'a pas de nom. Non, mais c'est très bon, c'est très bon.
Alors c'est un steak ou c'est pas un steak ? Vous nous appelez au 32-16, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.